Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Comment enseigner l'histoire de l'esclavage en Afrique ? L'esclavage a été l'une des pages les plus importantes, mais aussi les plus douloureuses dans l'histoire du continent africain. Une page douloureuse, mais qui a contribué aussi très très largement à l'histoire du monde. Il faut penser par exemple que les différentes portes par lesquelles les Africains sont sortis contre leur gré pour aller ailleurs ont joué un rôle de très très longue durée. Par le Sahara, on sait que c'est en gros du 7e au 19e siècle, par l'océan Indien probablement au même siècle, 7e, 19e, et par l'Atlantique de la fin du 15e jusqu'au début du 20e siècle, on va dire. L'abolition constitue souvent au 19e siècle n'a produit vraiment ses effets que au début de notre 20e siècle. Évidemment, la question c'est comment faire pour enseigner une page aussi douloureuse aux jeunes Africains d'aujourd'hui. Souvent, d'ailleurs, on insiste beaucoup sur la traite atlantique, étudiée de manière classique, ses origines, ses causes, ses conséquences en Afrique, dans le Nouveau Monde et dans l'émergence du capitalisme. Les autres aspects sont un peu moins connus par le Sahara et par l'océan Indien, mais dans tous les cas, ce sur quoi on est le moins informé, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du continent africain. On voit bien les forts négriers, les villes qui ont disparu quelquefois, dont certaines sont réhabilitées aujourd'hui. Depuis 1994, il y a eu une revigoration de la mémoire de l'esclavage lorsque l'UNESCO, à la demande de plusieurs États africains et d'Amérique latine, a lancé le grand projet qui est toujours en cours de la route de l'esclave. Le projet d'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique insiste justement sur les mécanismes d'enseignement. Et l'UNESCO a adopté, nous avons adopté, une approche qui insiste beaucoup sur l'observation du terrain. C'est vrai que pour les jeunes gens qui entrent à l'école primaire, les cours abstraits sur les routes maritimes, les routes terrestres, c'est quand même un peu difficile à comprendre. Donc, l'une des options, c'est amener les garçons et les filles à côté de leur village pour leur montrer un certain nombre de ces traces. C'est presque du tourisme, mais c'est une manière agréable de donner à connaître des choses qui ne sont pas des choses abstraites. On vit à côté de ça, et ces choses matérielles ou immatérielles sont la porte presque royale vers une histoire globale, vers une histoire mondiale. Je suis à Lomé avec un jeune homme qui s'intéresse à ces questions. J'espère qu'il deviendra un jour professeur à son tour. Odak aussi, bonjour.
Bonjour, professeur.
Vous êtes donc l'un des connaisseurs de cette géographie de la traite. Vous travaillez sur les traces qui restent aujourd'hui. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, vous ne travaillez pas principalement sur les régions côtières. Alors tout le monde sait, de Gorée jusqu'à Luanda, comment ça se passe, de l'île de Mozambique jusqu'à la mer Rouge. Vous avez choisi de pénétrer vers l'intérieur. Vous avez marché beaucoup, pris des photos, vu des gens. Pourquoi cette démarche vers les régions de l'intérieur dont, en général, on ne parle pas beaucoup?
Cette démarche est partie d'un constat. J'ai constaté que l'histoire de la traite et de l'esclavage qu'on nous enseigne suit un chemin figé. On ne se pose pas la question de savoir d'où les trafiquants traquaient ou bien trouvaient les esclaves qu'ils vendaient aux négriers blancs sur les côtes. C'est pourquoi j'ai décidé de mener les enquêtes à l'intérieur des pays côtiers pour interroger ceux qui maîtrisent un peu les récits liés à l'histoire de la traite et de l'esclavage pour pouvoir reconstituer les itinéraires et photographier certaines traces matérielles pour que nos professeurs puissent voir l'importance des recherches historiques en tenant compte les traditions orales.
Vous travaillez aussi sur les traces matérielles, pas seulement les traditions, mais les choses qui restent ou les choses que les gens peuvent retracer aujourd'hui. Alors, on pense par exemple à la question de les moyens de paiement. Hein. J'allais dire l'argent, mais pas l'argent, les moyens de paiement. Vous avez pu faire refabriquer, ou vous avez rencontré, je crois, un sac qui servait à quoi ? À mettre quel genre de, disons, de monnaie pour acheter combien d'esclaves ?
J'ai interrogé certains traditionnistes qui m'ont dit qu'à l'intérieur, les populations qui achetaient les esclaves ne connaissaient pas les monnaies en pièces. Ils utilisaient les courriers et le sel. Maintenant, comment faire pour mesurer ces monnaies et le sel ? C'est là qu'ils ont jugé intéressant d'utiliser une unité de mesure qu'on appelle OK. OK, c'est un sac que les marchands utilisaient pour échanger les esclaves. Bien sûr, les sacs-là étaient remplis de courriers et de sel.
C'était quelle quantité, pour se rendre compte, un sac, donc, OK, avec des courriers, combien de courriers pour, ou combien de sacs pour acheter un esclave homme ou un esclave femme, enfant ou adulte?
D'après la tradition orale, un sac peut contenir 20 000. Ou 30 000 courriers. Il faut noter que les sacs ont été fabriqués d'une manière artisanale. Donc, il ne peut pas avoir un sac. Bon, et les sacs ne peuvent pas avoir les mêmes mesures. Et tenez-vous bien, il y a un informateur qui me disait que les marchands connaissaient parfaitement le volume des sacs. C'est comme aujourd'hui, en Afrique ou bien au Togo, les femmes achètent le maïs avec les bols. Donc, on ne peut pas demander à un marchand de compter le nombre de maïs qui se trouve dans un bol. Donc, je pense que les marchands aussi, à vue d'œil, savaient ou bien arrivaient à distinguer des grands sacs de petits sacs.
Vous parlez, nous parlons là de commerce, mais il y a une violence quand même pour réduire un homme, disons une femme libre, à l'état d'esclave. Et est-ce que dans la mémoire des gens d'aujourd'hui, il y a des souvenirs de ces conflits, hein, il faut les appeler ainsi, que les états que nous connaissons bien sur la côte, qui étaient réputés être les vendeurs d'esclaves, des guerres qu'ils ont menées contre des populations de l'intérieur qui n'étaient pas dans les circuits commerciaux?
Effectivement, le trafic des esclaves revêtit un caractère traumatisant, puisque on ne vendait pas les hommes librement. Les esclaves sont ligotés. Cela nous amène à imaginer qu'avant d'avoir ou bien avant d'obtenir un esclave, il faut exercer toute une force pour pouvoir le ligoter. Même vendre un animal, on constate que le propriétaire même doit utiliser une force. Il faut imaginer s'il s'agit d'un homme, un être raisonnable, un être pensant. Donc il faut des stratégies pour pouvoir le ligoter et le vendre après.
Est-ce qu'il y avait une différence entre le prix d'un homme adulte, d'une femme, d'un enfant, enfant garçon ou enfant fille?
Bon, effectivement, il y a une différence. Et cela dépend aussi des besoins. Lorsque un marchand a besoin d'une femme, le vendeur ne voulait pas ou bien ne veut pas vendre cette femme. Donc le vendeur est obligé d'augmenter l'argent, le prix de cette femme. Donc si quelqu'un a besoin d'acheter un objet européen, il veut vendre un garçon, alors que le marchand veut acheter une femme, le vendeur est obligé de diminuer le prix, puisque ce n'est pas ce que le marchand veut acheter. Donc, on peut dire que le prix des esclaves dépend de la conjoncture, des besoins des uns et des autres.
Il n'y a pas de dignité sans liberté.
Nous avons connu que notre fils polié, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisait que reconnaître les droits du plus fort.
The Suez Canal, never far from the news in its 87 years of history.
Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse acquis par les paysans de ce petit pays depuis l'indépendance. Tant il est vrai que la terre ennoblit toujours l'homme qui sait lui confier ses peines.
Oda Kossi est notre invité à Mémoire d'un continent aujourd'hui. Nous nous retrouvons avec lui à Lomé pour évoquer la manière d'enseigner l'histoire de l'esclavage aux jeunes garçons et aux jeunes filles du continent africain aujourd'hui. Oda Kossi, parlons maintenant de un peu de géographie. L'habitat, les lieux, les villages. On imagine que pendant ces longs siècles, les gens devaient se protéger d'une manière ou d'une autre, notamment en cherchant des lieux où ils pouvaient échapper aux razzias d'esclaves ou en construisant des formes de fortification de défense. Vous avez retrouvé la trace de ces habitats aujourd'hui, disons, dans la région centre et nord du Togo?
Oui, effectivement, j'ai retrouvé certains sites et qui montrent l'atrocité liée au trafic des esclaves de l'époque. La topographie ou bien les sites de la plupart des localités dans cette région. Bon, les localités ont presque la même topographie. Et les villages sont fondés dans les cuvettes, au sommet des montagnes. Et j'ai posé la question aux fondateurs de ces villages. Ils m'ont dit, donc, pour se protéger ou bien pour se mettre à l'abri des razzias, il faut créer des villages dans les, et au niveau des sites escarpés ou bien dans leurs cuvettes pour au moins, comment dirais-je,
échapper
à la chasse à l'homme. Donc, les sites montrent que le trafic des esclaves et l'esclavage ont été des phénomènes qui ont transformé le mode d'habitat. Dans certaines localités, vous allez vous rendre compte que, au lieu qu'on vous montre une montagne, les populations disent que voici ou bien voilà la divinité qui nous a protégés.
La divinité, c'est la montagne, en fait.
C'est la montagne. Donc, pour ces populations, la montagne n'est plus une montagne en tant que telle. La montagne est devenue une divinité parce que la plupart de leurs ancêtres ont survécu grâce aux cavernes, aux grottes, ou bien aux trous de ces montagnes.
Parlons un peu de des pratiques religieuses, parce que ça joue un rôle important. On pense parfois que les religions locales sont nées là où on les pratique, qu'il y a peu de circulation, alors que évidemment les razzieurs ou les hommes libres devenus esclaves transportent avec eux des pratiques rituelles et des croyances. Maupoil a écrit un livre important sur la géomancie à la côte des esclaves. Donc, ces pratiques de divination sur le sable, principalement. Et alors, ça éclaire un peu l'histoire du Dahomey, qui a été un grand état esclavagiste. On parle beaucoup de Gbedegwe, qui a été l'initiateur ou celui qui a développé cet art divinatoire et religieux à l'époque de Glélé. Donc nous sommes dans la deuxième moitié du 19e siècle. Racontez-nous un peu cette histoire, parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait partie de la circulation des hommes et des idées.
Oui, effectivement, la traite et l'esclavage ont été des occasions de brassage culturel. Les esclaves qu'on achetait à l'époque avaient leur divinité ou bien leur pouvoir occulte. Lorsqu'un esclave arrive dans un milieu, son maître se rend compte que l'esclave dispose d'un pouvoir surnaturel ou bien magique. Le maître cherche à récupérer ce pouvoir. On peut citer l'exemple de Gedengbe, qui fut un esclave qui a été déporté de Tchabé. Bien sûr, la traite et la tradition orale nous dit que Gedengbe est arrivé à Abomey sous le règne de Glélé. C'est Gedengbe qui a implanté l'école de Ifa. Et selon les tenants ou bien les partisans de cet oracle, ils disent que Gedengbe est le père des écoles de Ifa à Abomey. Donc on peut dire que l'esclavage a été aussi une occasion de brassage culturel. Les gens ont échangé des connaissances. Les maîtres ont reçu certaines connaissances de la part de leurs esclaves et vice-versa.
Et le culte d'Ifa était important puisque l'art divinatoire, ça permet de savoir est-ce que le moment est venu de faire telle ou telle chose, notamment, par exemple, de faire la guerre contre les envahisseurs étrangers.
Effectivement, bon, l'oracle Ifa, pour les populations d'origine Ifa, représente non seulement une divinité, ou bien c'est comme, comment je peux l'expliquer, c'est une ressource pluridimensionnelle qui permet de faire une projection dans l'avenir ou bien d'étudier le destin d'un individu. C'est un instrument qui permet de prévoir ou bien de remonter à l'histoire pour connaître le passé d'un individu et de prévoir son futur. Donc, les trafiquants se servaient de cet oracle pour mener les razzias ou bien les traques.
Odak aussi, cette histoire de l'esclavage, c'est évidemment une histoire de violence inouïe, ces gens qui circulent, qui rasillent, les résistances, tout ça. Bon, aujourd'hui en Afrique, on parle beaucoup de diplomatie, de pacification. Ces gens ont quand même vécu ensemble pendant des siècles. Est-ce que malgré tout, au-delà de la violence de la mise en esclavage et de la déportation à l'intérieur du continent, est-ce qu'il y a eu des pratiques diplomatiques pour continuer quand même à vivre ensemble et à s'échanger des biens, disons, plus positifs que l'échange des hommes?
Oui, évidemment, certains étaient conscients de la situation déliquescente qui prévalait. Les sages de l'époque ont instauré un mécanisme qui a permis de réconcilier ou bien de rétablir l'entente sociale dans certains pays. Souvent, c'est le pacte de sang qui a permis aux antagonistes ou bien aux trafiquants de cesser leur razzia pour vivre ensemble. Et avant la conquête coloniale, certains peuples ont instauré ce mécanisme pour pacifier non seulement leur société, mais aussi pour englober les peuples environnants qui rasiaient leur localité.
Et aujourd'hui, ces mécanismes sont encore en vigueur dans les sociétés. Vous avez collectionné d'ailleurs beaucoup de photos où on voit des gens, par exemple, venir dans un village dont ils ne sont pas issus, tuer un coq, une poule, une chèvre, sans que ça fasse des histoires. Donc ça participe de cette diplomatie du vivre ensemble.
Oui, effectivement, les clauses des pactes sont aujourd'hui respectées par toutes les couches sociales, sans distinction de religion. Dans ces localités, si vous êtes un chrétien, ou bien un musulman, ou bien un adepte des divinités locales, vous êtes obligé de respecter les clauses de ces pactes.
Voilà donc un parcours absolument fascinant. Donc l'histoire ne s'apprend pas seulement dans les livres. Bien sûr, il faut des livres, mais la pédagogie active que nous essayons de développer aujourd'hui en Afrique montre que nous avons énormément de ressources et que la connaissance du terrain, la découverte du terrain par les garçons et les filles va leur permettre de mettre le doigt sur les traces encore visibles de notre passé. Un passé qui peut être un passé glorieux, bien sûr, mais un passé tragique dont Odak aussi vient de nous montrer qu'il existait des mécanismes très importants pour surmonter ces tragédies. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent. Réalisation, Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.